Marc Bulléon, je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre de ce festival interculturel du conte qui se tient à Montréal en cette fin d'octobre 2011. Alors, je suis heureux de vous rencontrer parce que vous menez dans le contexte du conte des expériences tout à fait intéressantes, notamment avec des adultes autistes avec lesquels vous utilisez d'une certaine manière le conte dans une forme d'échange et de relation avec un monde qui est extraordinaire.
Oui, bonjour. Alors là, on aborde d'emblée une partie de mon activité de conteur, parce qu'elle ne se résume pas à ça, qui m'occupe beaucoup depuis presque 10 ans maintenant.
On parlera du reste aussi.
Oui, bien sûr. Alors, en préambule, moi, je dirais une première chose, c'est que cette rencontre avec 4 hommes et 4 femmes adultes, j'insiste là-dessus, autistes, elle s'est fondée sur une envie de faire des choses ensemble, sur une sorte de reconnaissance mutuelle. Je ne sais pas ce que j'ai touché en eux, ce qu'ils ont touché en moi, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été comme une rencontre quand on croise quelqu'un, qu'on a le coup de foudre et puis on se dit tiens, on va faire des choses ensemble. Voilà, ça s'est fait comme ça. Je précise ça parce qu'il n'y a aucune notion de soin dans ma démarche. Il y a uniquement une notion rencontre artistique. Avec les deux termes ayant chacun leur propre valeur, hein, la rencontre d'un côté, l'artistique de l'autre, et les deux en même temps. Voilà, puis après, au fil de ce long parcours commun, même si en parallèle, je continue à faire d'autres choses.
Mais revenons peut-être au départ, vous leur avez d'abord raconté des histoires, c'est cela?
Oui, alors il m'a semblé, quand on a décidé de faire quelque chose ensemble, que la première chose, c'était qu'ils puissent se nourrir d'un fond d'histoire auquel ils n'avaient pas eu accès, ils connaissaient vraiment quasiment aucune histoire. Donc pendant un an et demi, quand j'étais là le lundi, quand j'étais pas en tournée, j'allais raconter dans ce tout petit lieu une demi-heure, et puis la demi-heure suivante, on prenait le café et on voyait ce qui se passe. Et il se passait pas grand-chose. Pendant longtemps, ça a été le silence. Enfin, j'avais l'impression qu'il se passait pas grand-chose. En réalité, il se passait plein de choses. Il m'a fallu un petit peu de temps, moi aussi, pour rentrer dans ce monde-là, dans ce monde où le temps est étiré, des fois, à l'infini, ou presque, enfin. Et puis, j'ai raconté tout type d'histoires, vraiment depuis des grandes mythologies à des histoires drôles, en passant par des contes philosophiques, du merveilleux, enfin tout type d'histoires. Et peu à peu, la parole a émergé, des mots au début, et puis après des choses un petit peu plus conséquente, et puis après des choses un peu plus fortes là, à propos de, je sais pas moi, d'une histoire dans laquelle un homme meurt ou une femme meurt, et hop, il y a moi, mon grand-père, il est mort aussi. On a des petites bribes comme ça qui arrivent. Ça a continué comme ça, sans forcer, on s'attendait mutuellement. Et puis un jour, il y a quand même une de ces femmes autistes qui elle s'exprime quand même plus facilement, qui m'a dit qu'elle voulait raconter une histoire. Elle m'a dit, elle parle un peu comme ça, elle a dit « Moi, je veux raconter une histoire voilà. !» Et je lui ai demandé quelle histoire elle voulait raconter. Et elle m'a dit « Je veux raconter l'histoire de l'homme qui pousse sa pierre en haut de la montagne. » Le mythe de Sisyphe, donc, que j'avais raconté plusieurs mois avant. Donc je reprécise rapidement le mythe. C'est une histoire d'un roi condamné par les dieux, parce qu'il avait fait des choses que les dieux n'avaient pas appréciées, à pousser éternellement un rocher en haut d'une montagne. Chaque fois qu'il arrive en haut, le rocher lui glisse des mains et il doit y être encore, sans doute.
Et ce conte est le symbole de l'absurde d'après Camus.
Oui, tout à fait. Et ce conte reflète complètement ce qu'est la vie d'une personne autiste qui, tous les matins, doit reconstruire le monde, son monde à elle, pour l'adapter un peu au nôtre. Parce que la grande difficulté et la grande fatigue des autistes, c'est quand même ça, c'est que notre monde n'est pas du tout fait pour eux, notre logique n'est pas la leur. Donc, sans arrêt, il faut se réadapter. Et elle choisit de raconter cette histoire-là. Moi, j'ai trouvé ça remarquable.
Alors à partir de cette expérience qui n'est effectivement pas la seule que vous menez dans votre carrière de conteur, dans votre métier de conteur, j'aimerais qu'à partir de là, vous nous disiez un peu ce qui vous, Marc Bulléon, vous a conduit au conte. Qu'est-ce qui fait le cheminement d'un homme qui devient un conteur ?
Alors c'est évidemment une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi et je dirais que je me la suis beaucoup reposée depuis cette rencontre avec des personnes autistes. Je voulais juste préciser que maintenant on en est au point avec ces quatre hommes et ces quatre femmes où on monte des spectacles, où on est tous les neuf sur scène. Donc c'est pour marquer le chemin parcouru.
Et vous avez aussi publié un livre, Toi, l'autre moi, paru aux éditions Mots et Couleurs, qui leur donne d'une certaine manière la parole, mais écrite cette fois-ci.
Voilà, tout à fait. Il y a eu des différents systèmes d'écriture, puisqu'ils n'écrivent pas eux, mais tout un travail de collectage auprès des familles, d'écriture orale, beaucoup, beaucoup d'aspects, ce serait trop long d'en parler là, mais c'est, oui, j'avais envie de leur restituer une trace, parce que l'échange est tellement riche que...
On peut en parler davantage, on reviendra à vous après.
Hein. Oui, oui. Disons que c'est un processus qui s'est enchaîné, c'est-à-dire qu'à un moment j'ai eu envie de leur restituer quelque chose sous la forme d'un livre qui leur rend hommage. Pour ça, j'ai fait un collectage auprès des familles. Ça a été des moments extraordinaires de confiance, de choses racontées extrêmement intimes. Les gens ont parlé. J'ai des heures d'enregistrement, des souvenirs, des histoires d'une beauté et d'une douleur, des fois, sans pareil. Et après ce livre, il me restait plein de documents. Donc je me suis dit, moi, mon métier, c'est de raconter des histoires, je vais raconter leur histoire. Voilà. Et de tout ce travail-là sont nés deux spectacles, l'un qui s'appelle « La géométrie des silences » et l'autre...
Un titre magnifique.
Merci. Et l'autre, « À portée de voix », donc qui sont deux spectacles où je suis seul sur scène et où je raconte leur parcours de vie. Donc voilà pour cette partie de mon activité.
Quant à ça, on revient maintenant à ma question. Comme on dit, puisque vous n'y avez pas encore répondu, je la repose. Quel est le cheminement qui a conduit Marc Bulléon à devenir le conteur et à vivre des expériences comme celles dont on vient de parler ?
Alors en fait, j'ai deux réponses. J'ai une réponse très basique. Si je reprends chronologiquement ma vie, je n'ai pratiquement pas fait d'études, mais je faisais de la musique depuis longtemps, j'écrivais depuis longtemps. Donc je me suis retrouvé à jouer dans des orchestres, dans des groupes musicaux au début des années 80, dans lesquels on m'a demandé à une période où c'était un peu en vogue d'écrire des scénarios, où on faisait des spectacles musicaux. Et puis je me suis mis à raconter ce que j'écrivais, ce qui m'a pas forcément convenu. Donc à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais aller chercher dans l'univers du conte, enfin dans l'écriture des contes, tout ce qui est de l'ordre de la trame, de voir comment c'est construit, voir pourquoi c'est si solide. Je connaissais quasiment rien, moi. Et puis voilà, je suis tombé là-dedans et je m'en suis pas... j'en ai pas réchappé. J'ai une autre version qui se rejoint d'ailleurs, mais qui est un petit peu différente, c'est que je viens d'une famille où on était très nombreux, campagne profonde, une mère toute seule, enfin moi je vais pas faire dans le... dans le dramatique, mais voilà, il n'y avait pas grand-chose. Et c'était une famille où il y avait beaucoup de bruit, mais il n'y avait pas grand monde pour vous écouter. Et donc, pendant très longtemps, il y avait dans cette famille un vieux piano complètement déglingué, dont je raconte maintenant l'histoire, parce que c'est une histoire assez extraordinaire, mais bon, je vais faire court.
Non, on a le temps, je ne vous interromps pas, vous vous interrompez vous-même, racontez, vous êtes conteur.
Alors, l'histoire de ce piano, elle est extraordinaire, parce que mon grand-père maternel est parti à la guerre, il avait 18 ans, en 1916, et il travaillait dans les mines d'Arnoise, là par là-bas, et il s'est retrouvé dans une tranchée avec un adjudant qui était chef d'orchestre, et qui lui a appris, en 2 ans de tranchée, toute l'harmonie, sans un crayon, sans un papier, sans rien du tout. Et mon grand-père, après, quand il est revenu de la guerre, il s'est inscrit à un cours par correspondance à Paris. Lui, il était en Anjou. Donc, j'ai encore les petits cahiers écrits à l'encre en plein délié, c'était très beau. Il est arrivé à un niveau d'harmonique auquel je ne suis jamais parvenu moi-même. Et avec les corrections en rouge, comme ça, où partout c'était marqué très bien, très bien, très bien. Et suite à ça, il a monté une petite fanfare dans ce petit village. Et donc avec genre une trompette, deux tubas, un cor, etc. Et il a commencé à transcrire des ouvertures d'opéra, des débuts de symphonie de Beethoven pour son petit orchestre comme ça. Et on a encore les cartons. Enfin, moi, je trouve que c'est une histoire incroyable. Et du coup, après, il a suivi des cours du soir. Il est devenu responsable d'un certain nombre de choses dans ces mines-là. Et il s'est acheté un piano. Et c'était ce vieux piano complètement déglingué auquel, dans cette maison où il y avait plein de monde et où personne ne pouvait vous écouter, moi j'ai passé des heures à parler à mon piano. Enfin, ce vieux piano. Et je me demande si, voilà, si en fait d'être devenu conteur, bon, moi ça fait à peu près 18 ans que je raconte, donc d'être devenu conteur à presque 40 ans, c'était pas une façon de relier tout ce que j'avais raconté à mon piano, en parfait autodidacte d'ailleurs, à un âge où j'étais, voilà, je m'étais un peu redressé dans la vie, on va dire, et où je pouvais reprendre ces mêmes paroles, mais droit face à un public, quoi.
On pourrait dire que c'est presque cette histoire que vous aviez failli ne pas nous raconter, que c'est presque une métaphore du conte qui va plonger dans des racines très profondes et puis qui nourrit la personne adulte.
Oui, complètement. Et là, si je relis ça avec mon travail, enfin avec mon parcours plutôt, avec ces personnes autistes, je retrouve un petit peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai commencé en prenant mes précautions, en disant que je n'étais pas un soignant. Ce qui est tout à fait vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 9 ans, nous les avons vus, les personnes qui les encadrent, les éducatrices, leur famille et moi, se redresser. Et c'est pour ça que je disais que cette deuxième version de Pourquoi je raconte me relie complètement à ce sentiment d'empathie que j'ai avec ces personnes autistes.
Alors, vous avez parlé de votre grand-père et il y a là aussi une image de la transmission des histoires anciennes qui se fait peut-être de manière inconsciente dans votre histoire. Mais quelle est selon vous la fonction du conte ? Par l'expérience que vous avez, pas seulement avec les autistes, mais par l'expérience personnelle que vous avez de ce que vous a apporté le conte à vous.
D'abord, une forme d'ouverture sur le monde. Moi, je crois que vraiment, ça m'a... Bon, j'étais pas enfermé sur moi-même, mais je sais pas, ne serait-ce que par le répertoire et puis par les rencontres. Moi, j'ai eu la chance quand même extraordinaire vers le milieu des années 90 de travailler au Centre de littérature orale avec Bruno de la Salle à une période où on était dans le collectif. Là, il devait y avoir 18 conteurs, il devait y avoir, je sais pas, 12 nationalités représentées. Donc, d'un seul coup, le monde s'est ouvert et ça devenait facile d'aller ici, d'aller là, d'aller sur un autre continent, de croire. Croiser des gens, donc ça, c'est, je dirais que c'est une des premières réponses. La deuxième, c'est que, enfin, si j'ai bien compris le sens de votre question, c'est-à-dire de savoir ce que ça m'a apporté à moi, ça m'a permis de me questionner sur des tas d'aspects de ma vie autrement que je ne l'avais fait jusqu'à ce moment-là. Alors à plein de niveaux, dans le questionnement pur, par exemple, si on prend des contes soufis, d'apprendre à réfléchir autrement, à se questionner autrement, sans chercher forcément une réponse précise à une question. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi ça m'a appris à me structurer d'une certaine façon. Le fait d'avoir besoin de structurer un récit pour pouvoir le donner à quelqu'un, enfin que cette personne en face ou ces personnes en face puissent le recevoir et se refabriquer elles-mêmes leurs images, moi je pense que ça m'a amené à penser plus clairement, si je peux dire ça comme ça. Ça m'a apporté beaucoup d'exigences. Ça, je suis très reconnaissant à Bruno de la Salle pour ça. C'est professionnellement, parce que après ce parcours musique, écriture, tout ça, j'ai été ébéniste en fait à mon compte. Et oui, la vie est longue, on a le temps de faire beaucoup de choses.
Oui, là,
et en fait, j'ai retrouvé dans cette exigence du conte, enfin du travail d'écriture orale, de la précision des images, du côté synthétique de la parole, j'ai retrouvé beaucoup de choses avec l'ébénisterie. C'est-à-dire que moi, je pense beaucoup à Luigi Rignanès là, quand je dis ça, mais pour moi, c'est à la fois un art et un artisanat aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une part artisanale de remettre sur le, comment dire, remettre sur le métier, son ouvrage, etc., d'avancer comme ça. Et puis, il y a une partie artistique qui est évidemment beaucoup plus créatrice, en puissance, etc. Mais pour moi, les deux sont importants. Et puis, je viens de la campagne, de métier plutôt traditionnel. Enfin, je suis attaché à cet enracinement aussi.
Alors, Marc Bulléon, lorsqu'on vous rencontre, on rencontre aussi ce festival Paroles de partout que vous animez, que vous avez créé. En quoi consiste-t-il ? Qu'est-ce qu'il vous apporte, ce festival ? Le fait de mettre en commun dans un événement festif ce qu'est le conte.
Oh, ça, c'est une histoire. C'est une histoire que j'aime bien. C'est-à-dire que je programmais comme ça. Beaucoup dans des lieux du handicap, d'ailleurs déjà à l'époque, des conteurs. Et puis quand ils venaient, donc quand je les programmais, je leur proposais de faire une soirée à la maison avec les amis, tout ça. Donc on habite la campagne, l'été on était 80, 90, voilà. Et puis au bout de 2-3 ans, on faisait des grandes agapes. Après, j'avais remarqué quand même pendant qu'on mangeait, après qu'on buvait, les gens parlaient des histoires. Et ça, je trouvais ça remarquable que des adultes, après un spectacle de conte, passe 2 heures à discuter de pourquoi c'est comme ça, d'essayer de comprendre quoi. Et donc je me suis dit à un moment que ce serait bien que d'autres puissent en profiter. Et là il s'est passé une chose assez étonnante quand même, c'est que donc c'est tous ces gens, amis, copains qui venaient, ça représentait disons 35 familles à peu près. Et j'ai envoyé un courrier aux 35 familles en leur disant voilà, mon projet ce serait d'organiser quelque chose de ce type là, mais à l'échelle d'une commune, de notre commune, pour que tout le monde y ait accès. Rendez-vous tel jour à telle heure si vous êtes intéressé. Et sur les 35 familles, les 35 familles étaient représentées. Il y avait au moins une personne de chaque famille. Et ça a donné du coup un élan incroyable et puis une force incroyable puisque c'était une vraie équipe d'emblée, quoi. Il y avait une... Et de fait, ce qui s'est passé, c'est que les spectacles en soirée avaient lieu chez l'habitant. En journée, il y a plein d'autres choses. Et du coup, sur cette commune de 5000 habitants, c'est-à-dire à peu près 1800 logements, on va dire, hein, que ce soit maisons particulières, appartements, fermes, etc., eh bien, au bout de 9 ans, on en est à 90 logements qui ont accueilli des conteurs venus l'un du Venezuela, l'autre de Pologne, l'autre d'Afrique, enfin du Burkina, l'autre du Cameroun, l'autre de je ne sais où. Et maintenant, c'est une petite commune, hein, je le ferai, je pense, un jour, je ferai une visite guidée, juste en citant les maisons, le nom des artistes qui étaient là, les pays qui ont été invités.
Vous n'avez pas dit le nom de cette commune ?
Ça s'appelle Le Pèlerin. C'est à 20 km de Nantes, au bord de la Loire.
Un nom aussi qui est très, très symbolique. Hein
oui, tout à fait. Oui, c'est, et puis il y a le fleuve. Le fleuve, pour moi, c'est très lié aux histoires. C'est l'ouverture sur le monde, justement. Ça va, ça vient. Et on est vraiment au bord du fleuve.
Alors, la dernière activité que j'aimerais évoquer avec vous, c'est celle de la formation. Vous organisez des stages, et des stages dans lesquels vous axez sur la transmission de l'expérience, d'une certaine manière, si j'ai bien lu et bien compris.
Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est... ce que je défends, il y a deux choses que je défends en stage, c'est tout le travail rythmique qui pour moi est essentiel au niveau de la parole d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'une parole qui s'entend, qui s'écoute, c'est une parole extrêmement posée, rythmée, enfin voilà. Il y a des gens qui ont ça spontanément, hein, mais il y en a d'autres, c'est un peu plus difficile. Et après, dans les stages, ce sur quoi je fais beaucoup travailler les gens, c'est l'opposé de ce qu'on appelle le par cœur, c'est-à-dire c'est expérimentation intime et restitution de cette expérimentation. Ça ne veut pas dire qu'on va livrer ses états d'âme, hein, c'est pas ça du tout, mais si je parle d'une vieille femme dans une histoire, voilà, j'ai à l'intérieur de moi une vieille femme et je vais essayer de trouver quelle elle est. Et après, j'aurai juste à énoncer vieille femme, et chacun se reconstituera sa vieille femme à lui. Mais c'est bon, c'est un travail qui amène une précision et une sobriété que moi j'aime bien dans le conte. Voilà, je ne suis pas du tout un conteur de description. Bon, après, il y a des gens qui font ça très bien, hein, il n'y a pas de règles, mais moi je sens bien que je suis vraiment, oui, dans une grande économie de mots. Je suis fait comme ça. Voilà, donc on travaille là-dessus. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Souvent, moi, en stage, je dis aux gens, tu es en train de me dire que toi, tu ne fais pas comme ça, mais est-ce que tu sais faire autrement? Pour faire un choix, il faut au moins savoir faire deux choses différentes.
Marc Bulléon, je vous remercie pour cet entretien et puis pour tout ce que vous nous avez appris et cette très belle histoire de votre grand-père que vous nous avez confiée. Alors je rappelle le festival qui a lieu dans la commune du Pèlerin, avec deux L je crois.
Oui, deux L.
Festival Parole de Partout et puis l'Estinge, et puis on vous retrouve sur votre site. Mais vous levez le doigt, vous avez quelque chose à ajouter.
Juste pour préciser que c'était la dernière édition de ce festival au mois de septembre dernier. En attendant autre chose. Il y avait besoin d'une pause, pour moi particulièrement, j'avais un peu d'usure, mais il y a des projets en cours.
Et de toute façon, on peut vous lire, enfin lire aussi vous-même et les adultes autistes de Sésame, les 8 conteurs avec lesquels vous avez écrit Toi, l'autre, moi, et puis il y a aussi un DVD de votre spectacle, La géométrie des silences, qui est accessible et dont on a toutes les références sur le site d'Espace Livre. Merci Marc Bulléon.
Merci. Thank you.